Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à tous, Régis Alter de Crésus Alsace. Nous recevons aujourd'hui Monsieur François Laux, ancien ministre de l'Industrie, député, rapporteur de la loi portant réforme du crédit à la consommation. Et donc, qui va nous parler de cette fameuse loi, la loi Lagarde, donc qui a deux objectifs, donc d'une part responsabiliser à la fois les emprunteurs, mais également les établissements bancaires et de crédit. Donc ces volets de la loi se retrouvent dans un point sur le surendettement, notamment des dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 2010, et d'autres dispositions sur le crédit à la consommation qui entreront en vigueur à partir du 1er mai 2011. Donc, Monsieur Laux, que pouvez-vous nous dire de cette loi ?
Bien, sur les grandes idées, d'abord, vous en avez très bien parlé, et l'idée est effectivement de responsabiliser plus, c'est-à-dire de faire peser une responsabilité plus importante à ceux qui prennent sur eux de faire des crédits trop facilement. Quand vous allez faire un crédit renouvelable de plusieurs milliers d'euros simplement en remplissant un papier, vous êtes comme banquier dans une situation assez curieuse, parce que vous donnez de l'argent sans savoir ce qui va en être fait, vous donnez de l'argent sans savoir si la personne est capable de le rembourser. Donc nous voulons que ces actes soient systématiquement responsabilisés. C'est-à-dire que dans la publicité déjà, il y a marqué que le crédit doit être remboursé. Alors ça peut paraître évident.
Oui, c'est vrai.
Mais on a vu dans un tas d'exemples que ça n'était pas évident du tout. Et on a vu par exemple que des gens prenaient des crédits renouvelables pour rembourser le crédit renouvelable précédent ou pour rembourser une dette précédente, c'est-à-dire le renouvelable voulant dire je renouvelle mon crédit alors qu'il devrait dire je peux m'acheter une chose et une autre et je rembourserai les deux. Et donc c'est cette responsabilité plus importante qui est l'esprit de la loi. Alors ça commence à la publicité, ça continue ensuite au moment du passage au crédit, ensuite ça continue au moment où vous avez votre crédit renouvelable, eh bien il est amortissable pour chacune des dépenses qui sont faites dedans.
Alors c'est important donc, justement de faire cette distinction entre les crédits qu'on appelle amortissables, ceux qui sont, qui ont une durée prédéfinie, c'est-à-dire qu'on prend un crédit sur un an, deux ans, on sait exactement le montant de la mensualité à payer, hein, par exemple 50 euros tous les mois, et on sait qu'à la fin des deux ans, on aura remboursé totalement le crédit avec un taux qu'on connaît également. Donc là, les choses sont claires. C'est vrai qu'avec le crédit renouvelable, hein, ce qu'on appelait avant la réserve d'argent, le bas de laine, etc., enfin le crédit revolving, les choses étaient moins claires pour le consommateur, parce qu'il s'y retrouvait pas chaque fois qu'il reprenait dans cette réserve, en fait, il savait pas pour combien de temps il allait devoir rembourser, etc., avec des taux qui frôle aussi l'usure, hein, puisqu'on est à 19-20%. Hein.
Donc on a aussi réformé le taux de l'usure, on a fait en sorte que les crédits soient tous limités. Vous prenez un crédit renouvelable, par exemple, vous avez 1000 euros de crédit renouvelable. Eh bien, ces 1000 euros doivent être remboursés en 3 ans de façon dégressive, exactement comme un crédit amortissable. Donc aujourd'hui, le crédit renouvelable, une autorisation de prendre des crédits amortissables les uns après les autres. En fait, ça fonctionne comme ça, de façon équivalente. Mmh. Donc ça responsabilise beaucoup plus à la fois l'établissement financier et ça responsabilise beaucoup plus l'emprunteur. Et comme on a demandé en plus que les banques et les établissements financiers assument leurs erreurs d'appréciation au moment où il y a surendettement, je pense que les pratiques vont changer et que sur les gens qui sont dans des situations de surendettement, eh bien, la façon de sortir de ce surendettement va aussi être améliorée. Nous avons mis dans la loi que, par exemple, au lieu de faire des tunnels de 10 ans, ce soit rapporté à 8 ans.
Donc là, vous parlez du plan, en fait, de désendettement ou du plan de redressement, hein, c'est ça ?
Du plan de redressement pour qu'il ait une limite dans le temps, pour que vous ne soyez pas, pour que la personne concernée ou la famille concernée ne se trouve pas pendant des années et des années à vivre avec un reste à vivre, puisse retrouver des solutions progressivement.
D'accord, donc ça a été réduit de 2 ans, donc ce qui permet effectivement de remonter un peu plus tôt, hein, pour les personnes. Ouais. Alors à l'issue de ces 8 ans, s'il y a un solde, comment ça se règle? On l'efface, on le...
Ben, ça peut être effacé.
Ça peut être effacé.
Bien sûr, oui.
Tout à fait. Voilà.
Et les commissions de surendettement peuvent prendre des décisions elles-mêmes sans passer par le juge. Enfin, il y a des simplifications qui sont apportées. Il y a des entrées en, dans la commission de surendettement qui sont plus simples, plus rapides. La recevabilité qui était un problème jusqu'à présent est beaucoup plus amplifiée. Donc, la loi apporte un tas d'améliorations techniques aux gens qui sont dans cette situation. Elles vont être progressivement sensibles. Et j'espère qu'elles produiront leurs effets de façon visible.
Tout à fait. Alors pour en terminer sur la protection des débiteurs, donc par rapport au logement, puisque c'est une problématique, je dirais, presque d'ordre public, hein, et certainement d'ordre public. Donc là aussi, des mesures ont été mises en place justement pour protéger les débiteurs.
Oui, c'est intéressant parce que quelquefois, la vente de la résidence principale est aujourd'hui, enfin avant cette loi, elle était obligatoire pratiquement dans la plupart des cas. Et dans cette loi, nous prévoyons tout à fait la possibilité de ne pas vendre la résidence principale. Parce qu'on fait, il faut que la commission de surendettement examine ce qui se passerait si l'appartement était vendu. Comment se relogerait la personne après ? Et quelquefois, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de vente qui soit faite parce que ce ne serait pas socialement soluble. Donc c'est une amélioration très importante dont évidemment chaque commission de surendettement va se saisir dans sa pratique et dans son expérience de terrain.
D'accord. Donc au final, je dirais que le fait de posséder sa résidence principale n'est plus un motif d'exclusion de la procédure de surendettement.
C'est tout à fait. C'est ça qui a une extension de la recevabilité.
Voilà.
Alors il y a des choses qu'on n'a pas réussi à résoudre.
Oui.
Par exemple, le problème des cautions.
Oui.
Lorsque on est caution, ben on reste caution.
Oui.
Et donc là, on n'a pas trouvé de solution pour que les cautions soient traitées comme les dettes.
Donc les cautions, en fait, c'est une garantie c'est des garanties qui sont prises, c'est des garanties personnelles qui sont prises par les banques. Hein, c'est-à-dire que lorsque on vient souscrire un crédit, on peut demander qu'une tierce personne se porte garante du paiement en cas de défaillance du débiteur principal. Donc ça, c'est le principe. Hein. Et donc ces cautions, en fait, lorsque le débiteur principal tombe parce qu'il est insolvable, sont amenées à payer à sa place la créance. Et souvent, c'est une théorie des dominos qui se met en place, hein, puisque la personne caution n'a pas les reins suffisamment solides pour supporter cette créance.
Oui, ça, c'est un vrai problème.
Et donc ça, c'est effectivement un problème qui subsiste. Et donc il y a encore du travail à faire.
Oui, sinon, la caution ne voudrait rien dire si elle était rééchelonnable.
Voilà. Donc ce qu'on peut conseiller aux personnes qui se portent caution, c'est d'être bien
conscient des risques auxquels ils s'exposent. C'est plus important de donner sa caution que de prendre soi-même une dette.
Tout à fait, voilà, tout à fait. Et on sait que, et ça c'est la difficulté de la caution, il y a beaucoup d'affectifs qui est lié, puisque c'est souvent l'entourage familial qui sollicite ce type de caution, ouais. pour un premier logement, pour un enfant par exemple, hein, qui sollicite une caution de ses parents, mais ça peut être des amis également. Et donc il y a une confusion entre de l'affectif et de l'économique, ouais, qui n'est pas facile à gérer. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres précisions à apporter sur la loi ? La recevabilité qui porte des effets importants maintenant.
Oui, la recevabilité, la résidence principale, les 8 ans au lieu de 10 ans, le crédit renouvelable qui est une succession de crédits amortissables, le changement du taux de l'usure. Je pense qu'on a changé tout ce qu'on pouvait et j'attire l'attention de chacun pour qu'ils prennent à temps leurs responsabilités et qu'ils n'entrent pas dans cette spirale qui est toujours dangereuse, même si on a réussi à en amortir les effets un petit peu.
Tout à fait. Alors pour l'entrée en vigueur, pour terminer, donc sur le taux usuraire, donc ça entrera en vigueur le 1er avril 2011, et donc pour le crédit à la consommation le 1er mai 2011. Donc nous verrons effectivement en pratique ce que cela va donner. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Laws, d'avoir participé à cet entretien.
Je voulais dire que Crésus était très très intéressé par la mise en place d'un fichier positif.
Oui.
C'est-à-dire un fichier dans lequel sont inscrits tous les crédits que l'on a en France. Et ceci a été inscrit dans la loi. Crésus en était un très grand demandeur. Je dois remercier Crésus pour son action au quotidien, mais aussi pour son action pour aider les législateurs à y voir clair là-dedans. Merci Crésus de tout ce que vous faites pour les gens et merci Crésus pour tout ce que vous apportez à la réflexion sur les problèmes à résoudre.
Merci Monsieur le Ministre, merci à tous, à bientôt.
Crésus, la radio qui vous aide.